J'ai constaté avec consternation que sur les 6 dernières pages du carnet de Hall, 5 portaient sur les faits et gestes de Lee à la Nouvelle-Orléans et ses efforts infructueux pour rallier Cuba via le Mexique. Seule la dernière page était consacrée à la période ayant immédiatement précédé l'assassinat. Et ses ultimes notes étaient tout à fait sommaires. Hall connaissait sans doute cette partie de l'histoire par cœur et devait se dire que si je n'avais pas éliminé Oswald avant cette troisième semaine de novembre, il serait trop tard. 03-10-63. Retour au Texas. Marina et lui plus ou moins séparés. Elle chez Ruth Payne. O vient la voir le week-end. Ruth lui trouve boulot au Book Dep par voisin, Buell Frazier. Ruth présente O comme un jeune homme de qualité. O habite Dallas pendant semaine, chambre meublée. 17-10-63, O commence travail Book Department, déménage livres, décharge camions, etc. 18-10-63, O a 24 ans. R et M lui organisent fête surprise. O les remercie, crie, pleure. 20-10-63. Naissance deuxième fille. Audrey Rachel. Ruth emmène Marina, hôpital, Parkland. O travaille, fusil caché, garage pain, dans couverture. O reçoit plusieurs visites agent FBI, James Hostie. Attise sa paranoïa. 21-11-63, O vient chez Payne supplier M de se remettre avec lui. Refus de M. Dernière goutte d'eau pour O. 22-11-63, O laisse tout son argent sur table toilette pour M. Alliance aussi. Va de Irving au Book Department avec Buell Frazier. Transporte paquet enveloppé dans papier craft. Buell demande ce que c'est. O répond « Tringle à rideau pour mon nouvel appartement. » Fusil Mankark, probe démontée. Buell se gare à deux rues, 3 minutes à pied, du Book Department. 11h50, O installe poste de tir coin sud-est, 5e étage, avec carton empilé pour isoler ouvrier qui pose plancher neuf à côté. Heure déjeuner, personne là-haut que lui. Tout le monde attend passage président. 11h55, O remonte et charge Mankark. 12h29, cortège arrive Dealey Plaza. 12h30, O tire 3 fois. 3e balle tue JFK. L'information qui me manquait cruellement, l'adresse de la pension de famille où crèchait Oswald, ne figurait pas dans les notes de Hall. J'ai dû me retenir pour pas balancer le carnet à travers la pièce. Au lieu de ça, je me suis levé, j'ai mis mon manteau et je suis sorti. La nuit était presque noire, mais une lune aux 3/4 pleine montait dans le ciel. À sa lueur, j'ai aperçu Mr. Ken Opensky affalé dans son fauteuil roulant, sa pile Motorola sur les genoux. J'ai descendu la rampe et boité vers lui. « Monsieur Kay, ça va ?» Pendant un moment, il n'a pas répondu, ni même fait un geste, et j'ai vraiment cru qu'il était mort. Puis il a levé les yeux et sourit. « J'écoute tranquillement ma musique, fils. Il passe du swing le soir sur KMAT, et ça me rappelle vraiment le bon vieux temps. Ah, je savais danser le lindy et le bunny hop comme personne à l'époque, même si on le dirait pas à me voir maintenant. Est-ce qu'elle est pas belle, cette lune ? Elle était super belle. » Nous l'avons contemplé un instant en silence, puis je me suis souvenu du travail qui m'attendait. Peut-être que j'ignorais où Lee crècherait ce soir, mais je savais où était son arme. Dans le garage de Ruth Payne, enveloppée dans une couverture. Et si j'allais là-bas pour m'en emparer? Peut-être que je n'aurais même pas à commettre d'effraction. J'étais en terrain d'antan où, le plus souvent, les gens de la campagne ne fermaient même pas leur maison à clé. Et encore moins leur garage. Mais si Hall s'était trompé, comme il s'était trompé sur la cache pour la tentative contre Walker, et même si le fusil était... À quoi penses-tu, fils ? M'a demandé Mr. Kenopensky. Tu as l'air bien morose. Pas de souci avec la demoiselle, j'espère. Non. Pas encore, du moins. Je peux vous demander conseil ? Vas-y, mon petit. C'est bien la seule chose à laquelle sont bons les vieux croulants comme moi, quand ils peuvent plus faire voltiger leurs cavalières, ni même danser en ligne. Supposons que vous connaissiez un homme qui va connaître une mauvaise action, qui y est fermement décidé. Si vous reteniez cet homme-là une fois, en lui faisant entendre raison, par exemple, pensez-vous qu'il réessayerait, ou bien ce moment d'égarement serait-il passé pour toujours ? Difficile à dire. Tu penses peut-être que celui qui s'en est pris à ta jeune demoiselle pourrait revenir pour essayer de finir le travail ? Quelque chose comme ça. Un malade. Ce n'était pas une question. Oui. Un homme sain d'esprit comprendra généralement à demi-mot, reprit Mr. Kenopensky. Un fou, rarement. J'en ai souvent été témoin dans le temps. Je te parle d'avant la lumière électrique et le téléphone. Tu mettais cette tête brûlée en garde et il revenait. Tu le rossais et il te tendait une embuscade. D'abord à toi, et puis à celui après qui il en avait. Tu le mettais en cabane au comté, et il attendait que ça passe pour sortir et recommencer. La meilleure chose à faire avec ce genre de détraqués, c'est de les expédier pour longtemps au pénitencier. Ou alors les tuer. C'est aussi mon avis. Ne laisse pas revenir lui gâcher ce qui lui reste de beauté, si c'est ce qu'il a l'intention de faire. Si tu l'aimes autant que tu en as l'air, fils, tu en as la responsabilité. Je l'avais assurément, même si Clayton n'était plus le problème. Je suis retourné dans mon petit appartement fonctionnel. Je me suis fait un café noir bien fort et je me suis assis avec un bloc-notes. Mon plan était un peu plus clair maintenant, et je voulais commencer à en préciser les détails. Mais au lieu de ça, je n'ai réussi qu'à gribouiller, puis je me suis endormi. Quand je me suis réveillé, il était presque minuit, et j'avais mal à la joue d'avoir dormi appuyé contre la toile cirée à carreaux de la table de la cuisine. J'ai regardé mon bloc-notes. J'ignorais si j'avais gribouillé ça avant de m'endormir ou si je m'étais vaguement réveillé le temps de le faire. Mais je ne m'en souvenais pas. C'était une arme. Pas un fusil Mannlicher Carcano, mais un pistolet. Mon pistolet. Celui que j'avais fourré sous les marches du perron du 214 West Neely. Il devait y être encore. J'espérais qu'il y serait. J'allais en avoir besoin. 19-11-63, mardi. Sadie m'a appelé le matin pour me dire que Deke allait un peu mieux, mais qu'elle préférait qu'il reste chez lui le lendemain aussi.
« Sinon, il va vouloir revenir trop tôt et il rechutera. Je préparerai mes affaires avant de partir pour le lycée demain matin et je prendrai la route aussitôt après la dernière heure. »
La dernière heure se terminait à 13h10. Ce qui signifiait que je devrais avoir quitté Eden Fellows à 16h au plus tard le lendemain après-midi. Pour aller où ? Si seulement je l'avais su. J'ai hâte de te voir.
Tu as une drôle de façon de parler, toute saccadée. Tu as de nouveau mal à la tête ?
Oui, un peu, j'ai dit. C'était vrai.
Va t'allonger avec une compresse humide sur les yeux.
Oui, c'est ce que je vais faire. Je n'avais aucune intention de le faire.
As-tu retrouvé quelque chose ?
Oui, j'avais retrouvé beaucoup de choses. Mais je ne pensais pas que m'emparer de l'arme de Lee suffirait. Et le tuer au domicile de Ruth Payne ne serait pas une bonne idée. Pas seulement parce que je me ferais sûrement pincer. En comptant ceux de Ruth, il y avait 4 enfants en tout dans cette maison. J'aurais quand même pu essayer si Lee était rentré à pied depuis un arrêt de bus du voisinage, mais il covoiturait avec Buell Fraser, le voisin qui lui avait décroché le boulot à la demande de Ruth Payne. « Non, j'ai dit, pas encore. »«
Nous allons trouver quelque chose ensemble. Attends et tu verras. »
Je suis allé jusqu'à West Neely en voiture. Je conduisais toujours lentement, mais avec une confiance croissante, en me demandant ce que je ferais si l'appartement du rez-de-chaussée était occupé. J'imaginais que j'irais m'acheter un nouveau calibre, même si j'en voulais pas un autre que le Special Police, puisque j'avais eu le même à Derry et que ma mission avait réussi. D'après Frank Blair, le présentateur du Today Show, Kennedy était arrivé à Miami, où il avait été accueilli par une foule nombreuse de Cubanos. Certains brandissaient des pancartes disant « Viva JFK !» D'autres portaient une banderole disant « Kennedy, traître à notre cause !» Si rien ne changeait, il lui restait 72 heures à vivre. Oswald, à qui il en restait à peine plus, devait se trouver au School Book Depository, en train de charger des cartons dans un ascenseur peut-être, ou de boire un café dans la salle de repos. Je pourrais peut-être l'avoir là. Entrer, marcher droit sur lui et le buter. Mais je serais vite ceinturé et plaqué au sol. Après le coup de grâce, si j'étais chanceux. Avant, si je ne l'étais pas. En tout état de cause, la prochaine fois que je verrais Sadie Dunhill, ce serait à travers un panneau de verre grillagé. S'il fallait que je me livre pour stopper Oswald, que je me sacrifie en langage héroïque, je pensais pouvoir le faire. Mais je ne voulais pas de ce scénario. Je voulais ma Sadie et mon fondant aussi. Il y avait un barbecue rond sur la pelouse du 214 West Neely et un nouveau fauteuil à bascule sous le porche. Mais les stores étaient tirés et il n'y avait pas de voiture dans l'allée. Je me suis garé en face et me disant que l'avenir appartient aux audacieux, j'ai monté les marches du perron. Je me tenais là où Marina s'était tenue le 10 avril quand elle était venue me voir, et j'ai frappé comme elle-même l'avait fait. Si quelqu'un ouvrait la porte, je dirais que j'étais Frank Anderson et que je prospectais dans le quartier pour le compte de l'Encyclopédia Britannica. J'étais trop vieux pour Grit. Si la maîtresse de maison manifestait de l'intérêt, je promettrais de revenir le lendemain avec ma valise d'échantillons. Personne ne répondit. Peut-être la maîtresse de maison travaillait-elle. Peut-être était-elle chez une voisine plus bas dans la rue. Peut-être était-elle dans la chambre qui avait été la mienne il n'y a pas si longtemps en train de cuver une cuite. C'était kiff-kiff bourricot pour moi, comme on dit en terrain d'antan. Tout ce qui comptait, c'était que l'endroit était calme et le trottoir désert. Même Mrs. Alberta Hutchinson, la sentinelle du quartier en déambulateur, n'était pas en vue. J'ai redescendu les marches en crabe et en boitillant, fait un pas dans l'allée, me suis retourné comme si j'avais oublié quelque chose et j'ai regardé sous l'escalier. Le 38 était là, à moitié enfoui sous des feuilles, avec son court canon qui dépassait. Je me suis appuyé sur mon bon genou, je l'ai attrapé et l'ai laissé tomber dans la poche de mon veston. J'ai regardé autour de moi, n'ai vu personne. J'ai boitillé jusqu'à ma voiture, rangé le pistolet dans la boîte à gants et mis les voiles. Au lieu de rentrer à Eden Fellows, j'ai bifurqué vers le centre de Dallas, m'arrêtant en chemin pour acheter un kit de nettoyage et une boîte de cartouches neuves dans un magasin d'articles de sport. La dernière chose que je voulais, c'était que mon calibre s'enraye ou m'explose à la figure. Mon arrêt suivant fut l'Adolphus. Aucune chambre disponible jusqu'à la semaine prochaine, me confia le portier. Tous les hôtels de Dallas s'affichaient complets pour la venue du président, mais pour $1 de pourboire, il accepta de garer ma voiture dans le parking de l'hôtel. « Mais vous devrez l'avoir récupéré avant 16 heures. C'est l'heure de pointe pour les entrées. » Il était déjà midi. Je n'étais qu'à 3 ou 4 rues de Dealey Plaza, mais j'ai pris mon temps. Et comment ? Pour y arriver. J'étais fatigué. Et malgré la goodies que j'avais avalée, mon mal de tête avait empiré. Les Texans conduisent au klaxon, et chaque coup de trompe me vrillait le cerveau. Je faisais souvent halte pour me reposer, en appui contre la façade des immeubles, debout sur ma bonne jambe comme un héron. Un chauffeur de taxi qui débauchait est venu me demander si ça allait, et je l'ai assuré que oui. C'était un mensonge. J'étais affligé et désemparé. Quand on a un genou bousillé, on ne devrait pas avoir à porter l'avenir du monde sur son dos. J'ai posé mon postérieur reconnaissant sur le même banc exactement où je m'étais assis en 1960, quelques jours seulement après mon arrivée à Dallas. L'orme qui m'avait abrité entrechoquait aujourd'hui ses branches nues. J'ai étiré mon genou douloureux, poussé un soupir de soulagement, puis reporté mon attention vers le vilain cube de briques du School Book Depository. Les fenêtres donnant sur Elm et Houston Street scintillaient dans le soleil froid de l'après-midi. « Nous savons un secret, » disait-elle. « Nous allons être célèbres, surtout celle du coin sud-est au 5e étage. Nous allons être célèbres et tu peux pas nous en empêcher. » L'immeuble dégageait une impression de menace absurde. Était-ce juste mon impression ? J'ai vu plusieurs personnes changer de trottoir pour dépasser l'immeuble, et je me suis dit que non. Lee était à l'intérieur de ce cube en ce moment même, et j'étais sûr qu'il se posait beaucoup de questions semblables aux miennes. Suis-je capable de le faire ? Vais-je le faire ? Est-ce mon destin ? J'ai pensé, c'est plus Robert ton frère, Lee. Maintenant, ton frère, c'est moi, ton frère de larmes. Tu le sais pas, c'est tout. Dans le dépôt ferroviaire, derrière le TSBD, une locomotive a sifflé. Une bande de pigeons a pris son essor. Ils ont brièvement tourbillonné au-dessus de la réclame Hertz perchée sur le toit de l'immeuble, avant de mettre le cap vers Fort Worth. Si je le tuais avant le 22, Kennedy serait sauvé. Mais je prendrais presque à tous les coups 20 ou 30 ans de prison ou d'hôpital psychiatrique. Mais si je le tuais le 22, peut-être au moment où il remonterait son fusil. Attendre aussi tard dans la partie, c'était prendre un terrible risque. Un risque que j'essaierais d'éviter de toutes mes forces. Mais je pensais que c'était faisable. Et que c'était sans doute ma meilleure chance à présent. Ce serait plus sûr avec un partenaire, mais je n'avais que Sadie et je ne voulais pas l'impliquer. Quand bien même cela entraînerait la mort de Kennedy ou mon arrestation. Elle avait été suffisamment blessée comme ça. J'ai commencé à rebrousser chemin lentement pour retourner chercher ma voiture à l'hôtel. J'ai jeté un dernier coup d'œil au School Book Depository par-dessus mon épaule. Il me regardait. Ça ne faisait aucun doute pour moi. Et naturellement, c'était là que tout s'arrêterait. J'avais été naïf de m'imaginer d'autres chutes. J'étais depuis le début entraîné vers cette carcasse de briques comme une bête dans un couloir d'abattoir.